Voix enchantée.
Barry Jenkins, qui est un scénariste et réalisateur américain.
Léonie Pernet.
Booba. Je voudrais dire sans rien y ajouter. Je suis.
Une émission de Louisa Léo, une fois par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Voix enchantée, l'émission qui permet de découvrir le portrait radio d'un ou une invitée à travers ses goûts artistiques, mais aussi un texte personnel, une bribe de phrase marquante entendue dans son entourage ou l'espace public. Aujourd'hui, on accueille Nicolas au studio. Bonjour.
Salut Louisa.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Ouais.
Est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tes passions ?
Ouais, bah carrément. Je m'appelle Nico. Je suis doctorant, je fais une thèse en études théâtrales. Et du coup, j'enseigne aussi un petit peu dans le cadre de ça. Je fais une thèse, je travaille sur la musique métal. Je m'intéresse à la théâtralité et la dramaturgie de la musique métal. Et c'est un truc que j'explore un petit peu en croisant du coup les outils du théâtre, les outils de la musique, pour parler de ce truc qui me passionne en fait.
Ok, donc ça c'est théoriquement ce que tu étudies. Est-ce que dans ta pratique il y a aussi de la musique ou du théâtre ?
Non, alors malheureusement, ça fait très longtemps que j'ai rompu complètement avec la pratique, que ça soit en musique. Bon, j'ai jamais été très très doué à la guitare, mais j'ai essayé de claquer 2-3 accords. Et théâtre, j'en faisais en amateur par avant. J'ai même commencé à animer un petit peu des ateliers à un moment, quand j'étais à la fac, où j'animais des ateliers de pratique de théâtre au masque. Et ensuite, il y a la pandémie qui est arrivée et ça a complètement mis fin à cet élan-là de créativité dans ma vie, que j'ai récupéré un peu dans d'autres choses, mais c'est vrai que ça a fait une grosse rupture.
Bon, il n'est jamais trop tard et la vie est faite de plein de surprises.
Ouais.
On commence avec ton choix d'artiste. Nicolas, comme chaque mois, l'émission, elle commence avec le choix d'un ou d'une artiste qui, toi, te touche particulièrement, pour plein de raisons. Est-ce que tu peux nous dire qui c'est ?
Ouais, ok. Du coup, j'ai choisi de parler de Brennan Lee Mulligan, qui est comédien et humoriste américain, que j'ai découvert justement pendant la pandémie, notamment parce que c'est un maître de jeu qui anime des jeux de rôle. Et c'est un peu avec lui que j'ai découvert ce hobby-là, cette forme d'art, d'expression, d'improvisation, et qui m'a incité en fait à moi-même commencer à faire ce hobby.
Influencer en termes de jeu de rôle, c'est ça ?
Un peu, ouais, on pourrait dire ça, ouais. Il était en fait à la base comédien stand-upper.
Ouais.
Et il était notamment dans le site College Humor, qui était assez big dans les années 2010. Et ensuite, quand College Humor, ils ont fait faillite, ça a été racheté par un des membres, Sam Reich, qui ont lancé leur un nouveau concept qui s'appelle Dropout, dans lequel il y a plein d'émissions différentes. Et une de ces émissions, c'est une émission de jeu de rôle.
C'est marrant parce que dans jeu de rôle, comme on le prononce rapidement, on entend jeu de rôle.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Enfin, il y en a peut-être un en particulier qui t'a marqué de ces jeux de rôle. Et ouais. À la fois, pourquoi c'est drôle ?
Alors, c'est drôle, pas toujours. Ça peut aussi faire pleurer. Et j'ai déjà fait pleurer certains de mes joueurs d'émotion, de tristesse, de surprise aussi, avec tournants, des rebondissements soudains. Et je me suis surpris aussi en regardant les différentes saisons de Dimension 20, qui est l'émission de jeu de rôle animée par Brennan Lee Mulligan, de aussi bon, rire aux éclats, mais aussi pleurer parfois. Et un de ces jeux, alors, il y en a plusieurs, mais un qui est un peu la star, parce que c'est un des plus connus, c'est bien sûr Donjons et Dragons, qu'on connaît pas mal un petit peu, qui a été remis un petit peu au goût du jour avec Stranger Things, où il y a ce hobby de rôliste qui a une importance narrative dans la série. Ça permet de vivre des émotions assez fortes. Et ce que j'aime dedans, c'est que c'est un petit peu... Tu fais de l'improvisation théâtrale, mais ton public, c'est tes amis. Donc c'est vraiment une forme que tu fais pour toi et pour les gens que tu aimes, avec tout petit public réduit. Et forcément, on comprend les blagues, on comprend les références qu'on a les uns avec les autres.
Donc tu n'as pas complètement rompu avec la créativité, Nico ?
Ben ouais, complètement. En fait, c'est le petit interstice où j'arrive à garder genre, cette pratique théâtrale dans ma vie, à garder ce plaisir-là.
Et la personnalité de Brennan, comment tu la définirais ? Est-ce que c'est ça aussi qui fait que tu le suis depuis le confinement ?
Ouais, clairement. Il a quelque chose... Alors, Il y a un truc chez Brennan que j'apprécie énormément, c'est qu'il se prend pas au sérieux. Il y a un truc où il peut switcher en quelques secondes de hyper sérieux, il adopte un ton, il décrit un paysage de forêt elfique, un peu à la Tolkien, et l'instant d'après, il va y avoir une blague, et il va genre prendre cette opportunité qu'un des joueurs a fait une blague pour tourner le truc et en faire en fait quelque chose de très très drôle, très ludique aussi. Et il va pas essayer de sacraliser la forme comme un truc littéraire ou artistique, mais vraiment comme un truc vivant d'impro. Et ça, bon, je pense que je suis loin d'avoir son niveau, mais c'est un petit peu mon mentor par proxy, quoi.
C'est inspirant pour ta pratique. Merci beaucoup. On continue avec ton coup de cœur musical. C'est la deuxième étape de l'émission, celle du coup de cœur musical. Est-ce que, avant qu'on écoute le morceau, tu peux nous annoncer le nom de l'artiste ou du groupe et de la musique?
Alors du coup, c'est une chanson qui s'appelle Regret, d'un groupe de métal suédois qui s'appelle Avatar.
Là, pourquoi ce morceau?
Après longues hésitations, j'ai choisi ce morceau parce que c'est l'introduction de mon album préféré d'Avatar. Un album qui s'appelle Feathers and Flesh et qui a une place super particulière dans la discographie d'Avatar parce que c'est un album concept. Regret, c'est l'ouverture de cet album, mais il s'avère que c'est aussi la fermeture et la fin parce que c'est un album qui a une forme cyclique et qui commence déjà à sa fin, avec une protagoniste qui est en fait au bout de sa vie et qui va avoir un flashback de toutes les péripéties de sa vie, tous les éléments qui l'ont amené à ce point final. Et en fait, c'est un petit peu comme dans les films, comme dans Fight Club ou un film comme ça, où tu commences à la toute fin et tu vas revoir tous les éléments qui ont fait que le personnage est arrivé à ce point décisif.
Et donc ça t'inspire le côté histoire conceptuelle, mais est-ce que aussi, là j'ai envie de dire la ligne mélodique, mais je m'y connais pas trop en métal, qui est quand même hyper puissante, te touche?
Complètement. D'ailleurs, y a cette montée un petit peu en puissance à la fin, qui fait qu'il y a une transition quasi ininterrompue avec le morceau suivant, qui s'appelle House of Eternal Hunt. Là où le premier morceau, c'est la protagoniste mourante, qui regarde tous les événements de sa vie et qui regrette finalement d'en être arrivé là. Le second morceau, avec cette transition enchaînée, c'est elle à son point le plus haut, où elle a le plus de puissance. Et il faut savoir aussi que c'est un petit peu un conte, Feathers and Flesh. Et les personnages de ce conte, ou de cette fable, c'est des allégories, des animaux, qui représentent un petit peu des valeurs humaines, la liberté, ou des concepts comme la nuit, l'éternité. Et dans ce genre musical qui fait beaucoup en puissance, comme tu dis, je trouve ça vachement beau et poétique que dans ces petits interstices, il y a des thèmes aussi beaucoup plus profonds et doux et oniriques un petit peu qui viennent se loger.
Oui, il y a beaucoup d'images et même en l'écoutant, j'avais l'impression que c'était un... comme tu dis, une protagoniste, un protagoniste d'une comédie musicale, enfin quelque chose d'un peu dramatique comme ça. Et donc, pourquoi dans cet album-là, tu choisis le regret, regret ?
Probablement, alors je l'ai surtout choisi parce que je me suis dit la meilleure manière de rentrer dans cet album, c'est par le début. Et il y a vraiment une question qui est posée avec un point d'interrogation qui est, on commence une histoire et le personnage principal est en train de mourir. Et on nous dit... Never had a dream this lonely, where did everybody go? Où sont partis tous les personnages? Où sont partis tous les personnages de cette histoire? Il ne reste plus que moi. Et je trouve ça assez original de commencer par le point le plus bas pour ensuite explorer toute la gloire et tout le chemin. Et finalement, en fait, j'y vois plutôt pas du regret, mais en fait une forme d'espoir.
Merci beaucoup Nicolas. On va passer à ton partage de texte. Donc c'est toi qui as écrit un petit bout de quelque chose, peut-être il y a des années, peut-être pour l'émission. Est-ce que avant de nous faire cette lecture, tu peux nous contextualiser un peu le moment de l'écriture ?
C'était il y a environ un an et demi quand j'ai commencé à faire une aventure de jeu de rôle pour mes joueurs qui sont mes amis. C'était la première fois que je faisais quelque chose de cette ampleur-là, et aussi avec un matériau aussi personnel, où en fait j'ai choisi d'écrire une grande partie de l'aventure et de ce qui allait se passer, et d'écrire aussi en fait les contes et légendes de cet univers. Je le décrirais comme un conte pour enfants devenus grands.
Merci beaucoup, on t'écoute.
Alors c'est Le Conte de la Forêt des Deux Rois, par Mamie Najida. Matriarche tabaxi. Venez, rapprochez-vous du feu, mes enfants, et prêtez oreille au ronron de votre mère grand. Il était une fois un prince brave et impétueux, nommé Hildinger, le plus jeune fils de notre vaste terre, la défunte Eatmota. Je vous parle d'un temps où le monde était hostile et sauvage, une guerre fratricide défigurant chaque paysage. Car les enfants d'une même portée, par jalousie et rancœur, avaient du sang de leur propre mère souillé le pas de leur demeure. Hildinger, qui était jeune et ambitieux, revendiqua son droit de naissance. Pour prendre le pouvoir, soumettre ses frères et mettre fin à cette violence. Dans la forêt primordiale, il chercha la couronne qui ferait de lui le roi des dieux, mais ne trouva qu'épines, ronces et branches acérées comme des pieux. Entre les cimes, une figure ailée lui apparut, deux grands bois ornant son front. Elle lui offrit une arme, taillée dans l'os d'une créature, venue d'autres horizons. Hildinger prit la lame et comprit la tâche qui lui restait à faire. Il plongea le poignard dans son crâne et en retira son globe oculaire. L'acte accompli, il fit tomber l'arme et offrit son œil aux puissances primordiales. Un murmure parcoura les cimes, et les racines lui remirent un cercle de métal, la promesse d'un royaume et l'adoration des mortels, la couronne de la terre-mère, inerte et éternelle. Ainsi, Hildinger devint le borgne, le roi sous la montagne, avec à ses côtés sa sœur, l'obscurité, comme éternelle compagne. Il quitta à jamais le monde sauvage et les étendues enneigées, et tôt ou tard, devant son Altesse souterraine, tous ou presque vinrent s'incliner. Qu'advint-il de l'autre œil de Hildinger, me demandez-vous, mes chers petits ? Certains racontent qu'il orne la voûte céleste afin d'éclairer les mortels dans la nuit. D'autres disent, que lorsque le prince présenta à l'apparition le globe ensanglanté, la figure au long bois rit, la terre trembla et l'œil tomba dans une brèche enflammée. Mais méfiez-vous des sermons des prêcheurs, mes enfants, et écoutez plutôt le ronron de votre mère grand. Depuis ce jour, loin du borgne et de son empire souterrain, un autre roi séjourne entre les troncs des sapins.
Merci beaucoup Nicolas pour ce début de conte qui nous a fait voir plein d'images et encore plus à la radio. Je me suis dit que ça pourrait presque faire une fiction sonore, on en reparle. On passe sans plus tarder à ton choix d'œuvre phare. Est-ce que tu peux nous dire quelle œuvre tu as choisi parmi toutes les possibilités ?
Une partie de moi a pensé au Winterreise de Schubert et une autre partie de moi s'est dit « t'as pas encore parlé de théâtre ». Et c'est pour ça que j'ai choisi de parler de « On voudrait revivre » de la compagnie Claire Sergent.
Alors, c'est un spectacle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi il est question ?
Ouais, c'est un spectacle musical qui a l'ambition, en apparence plutôt simple, de reprendre les chansons de Gérard Manset, un artiste de chansons françaises assez connu.
Que tu aimes particulièrement ?
Eh bien, que je connaissais absolument pas.
Ça, c'est marrant quand même.
Que je connaissais pas du tout. Un artiste qui a fait très très peu de scènes et qui fuyait le public et qui fuyait les interviews et qui fuyait aussi la radio. Le pari un petit peu des comédiens de la compagnie Claire Sergent, Maxime et Léopoldine, je crois, quand ils s'emparent de ce matériau-là, c'est de se dire « Ah, un chanteur qui n'aime pas la scène, qu'est-ce que ça fait si on en fait une pièce de théâtre ?» Et moi, j'ai découvert ça à Avignon en 2019, complètement par hasard. Et j'ai été transporté dans l'univers de Manset, mais aussi dans l'univers de ses comédiens. Et j'en suis sorti estomaqué.
Et tu saurais dire ce qui t'a bouleversé exactement ? Est-ce que c'est ces univers-là qui se croisent ? Qu'est-ce qui s'est passé en fait en toi, en tant que spectateur à ce moment-là ?
Ça commence tout doucement, parce qu'en fait, tu rentres dans la salle et les deux comédiens sont là sur le plateau. Ils te disent bonjour, on va pas tarder à commencer. On attend que tout le monde s'assoie, donc il n'y a aucune fiction qui est créée. Ils se présentent, ils disent « je m'appelle Maxime, je m'appelle Léopoldine, on est les comédiens, on est aussi les personnes qui vont chanter, vous êtes bien installés ». Et ils passent un petit morceau d'une des rares interviews de Manset, et ensuite ils la rejouent un petit peu, et de strate en strate, tu tombes un peu comme ça dans le personnage de Gérard Manset et leur personnage à eux, et la manière dont il se réapproprie cette musique. Et la musique de Manset, ça a une place assez singulière maintenant dans mon répertoire musical, parce que c'est vraiment des textes qui... Il n'y a rien qui est pareil. Cette poésie qui parle de l'existence, qui parle de errer de ville en ville, qui parle de moments un petit peu dans le quotidien, où il y a des moments de flottement.
De solitude aussi.
Ouais, complètement. Et des moments où tu te retrouves un peu seul face à toi-même, et il y a un vertige qui peut te prendre dans ces moments-là.
On écoute Léopoldine Hummel et Maxime Kerzané reprendre la chanson « Revivre » de Gérard Manset.
On voudrait revivre, on voudrait revivre, on voudrait revivre, on voudrait revivre, on voudrait
revivre. Attends, tu fais quelle voix ?
On voudrait revivre, on voudrait revivre, on voudrait revivre, on voudrait revivre. Mais ça veut dire, on voudrait vivre encore la même chose. Le grand parcours, toucher du doigt le point de non-retour, et se sentir si loin, si loin, si loin de son enfance, en même temps qu'on a froid, qu'on pleure. si le ciel nous laisse, on voudrait revivre, mais ça veut dire on voudrait vivre encore la même chose. Le temps n'est pas venu qu'on se repose.
Il y a un mot qu'on n'a pas encore dit dans l'émission, c'est le mot nostalgie. Mmh. Parce que bon, j'ai quand même l'impression que c'est teinté de ça, en tout cas là, ce qu'on vient d'écouter. Et je me dis que tout à l'heure, on a parlé de regret,
ouais,
qui était teinté d'espoir. Et là, c'est revivre. Mmh. Donc il y a un côté flashback, on regarde en arrière quoi, à chaque fois.
C'est vrai, je n'avais pas fait attention à ça. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis... Peut-être que je suis à un moment de ma vie où je regarde un petit peu en arrière. Et c'est peut-être aussi pour ça que ces œuvres-là me touchent. Après, j'ai pas l'impression que ça vienne forcément avec de la mélancolie. C'est presque plutôt un retour en arrière assez joyeux aussi, regarder tout le chemin parcouru.
Assez serein, quoi.
Ouais, et tout le chemin qui reste à parcourir aussi.
On continue avec ta bribe de phrase.
Hey, listen. You too crazy, nigga. You better stop, man. You better stop. Let me tell you something.
Il reste beaucoup de chemin à parcourir, mais dans l'émission, c'est déjà la dernière étape, celle de la bribe de phrase. Donc c'est une phrase comme ça que tu as entendue, que ce soit dans ton entourage, dans l'espace public. Et ce moment-là t'a marqué, pour une raison ou pour une autre. Est-ce que tu peux nous révéler un petit peu ce qui s'est passé et quelle phrase t'a plu, t'a marqué?
Alors... quand j'ai fini le lycée, je voulais devenir comédien. Et j'ai foiré complètement les écoles d'acteurs. Le pari avec mes parents, c'était que si je foirais les écoles d'acteurs, j'irais du coup en classe préparatoire. Bon, je me suis quand même démerdé pour aller dans une classe prépa où il y avait du théâtre. Et il s'avère que l'année où j'y suis allé, il y avait une masterclass de Olivier Py. Alors avec mes camarades, on avait préparé des questions, sous l'impulsion aussi de nos profs, qui nous avaient dit « Soyez un petit peu sérieux, c'est Olivier Py ». Le directeur du Festival d'Avignon. Donc on avait lu ses bouquins avant. Je lève la main, je pose mes questions. Et il me répond « Ah ouais, c'est moi qui ai écrit ça. Oh, c'est chiant quand même. » Et je cite « L'important c'est faites l'amour, mangez des mangues, voilà. »
Et ça t'a marqué?
Ça m'a marqué parce qu'il y avait un petit peu le côté provoque... Moi, j'étais un petit peu intimidé par le personnage et immédiatement, il est devenu beaucoup plus humain et remettre aussi un petit peu, ouais, un certain sens des priorités.
Et tu as appliqué son conseil ?
J'aime beaucoup les mangues.
Okay.
Et d'autres choses aussi.
On va rester là-dessus. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir été la voix enchantée du mois d'avril. Et merci à Rosalie Berne à la réalisation, toujours là en régie. On se retrouve le mardi 6 mai à 18h sur Radio Campus Paris. Et quand vous voulez, en podcast sur le site de la radio.